Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Hélène Manarino, puisque c'est le moment du journal de la culture. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Comment ça se passe ce confinement Hélène aujourd'hui?
Eh bien écoutez, ça se passe très bien, mon sport est fait, puis après le journal, je vais faire mes petits cours d'anglais, vous savez que je continue tous les jours.
Ça s'entend vraiment.
Voilà, pour avoir un accent parfait.
On commence ce journal Hélène par une bonne nouvelle, ça fait du bien. La Mostra de Venise, ok, c'est en septembre, mais elle aura bien lieu.
Voilà,
oh, l'illustration,
petit son
j'adore.
De Nicolas Souvent. Pour démarrer ce journal. Voilà. Et oui, Philippe, évidemment qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, mais là, ouais, c'est officiel.
Surtout en décapotable à Venise, c'est vraiment l'endroit de passer avec sa bagnole.
Mais évidemment, le festival de cinéma, la Mostra de Venise, se déroulera bien du 2 au 12 septembre prochain, malgré la crise sanitaire. Ce sera la 77e édition. Je rappelle quand même que c'est le plus ancien festival de cinéma du monde. Il est dirigé par Alberto Barbera. Alors surprenant, oui, avec toutes les annulations des autres festivals, évidemment, alors qui ont été annoncés. Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, avait évoqué la possibilité de s'unir avec la Mostra de Venise si elle avait lieu, mais les organisateurs du festival italien affirment qu'il n'y a aucune hypothèse de collaboration à ce jour.
On passe à un événement français qui a été reporté en septembre, le Salon du Livre Rare. Et avant ce grand rendez-vous, il y aura un vernissage virtuel.
Oui Philippe, avant l'ouverture officielle du salon le 4 septembre prochain au Grand Palais, un vernissage virtuel aura lieu à la date initialement prévue, le 23 avril. Alors pourquoi? Les collectionneurs pourront prendre connaissance malgré le confinement du grand catalogue de cette année. Chaque exposant pourra aussi ajouter un lien de ce qu'il va présenter pendant le salon. On parle donc de grand catalogue collectif. On sait déjà qu'il y aura pour cette 32e édition une lettre de Marcel Proust qui donne le plan de À la recherche du temps perdu, ou encore un manuscrit d'Émile Zola. Le Salon du Livre Rare réunira du 4 au 6 septembre 160 librairies, 16 galeries de dessins, 10 éditeurs d'art et 8 artisans du livre.
Et puis on reste dans le domaine de la lecture. Les libraires ont beaucoup d'idées pour maintenir le lien avec leurs lecteurs.
Des initiatives originales et très sympathiques. Les librairies ont dû fermer il y a plus d'un mois, dès le début du confinement. Mais les libraires, eux, ont décidé de maintenir tout de même leurs activités. On vous en a déjà parlé dans le journal, notamment avec, vous savez, le service de drive.
Ouais.
Mais ce n'est pas tout. La propriétaire, par exemple, d'une librairie lilloise, la Place Ronde, a décidé déjà de poster une suggestion de livre sur les réseaux sociaux. Et depuis 3 semaines, elle a mis en place l'apéro littéraire de Place Ronde. C'est génial. Chaque soir, une centaine de personnes donc, se retrouvent sur les réseaux sociaux pour échanger sur leur choix de livres. Alors, il y a des clients habitués, mais pas seulement. Et puis, autre librairie lilloise, La Chouette, sa gérante propose de lire au téléphone des courts extraits d'œuvres entre 5 et 7 minutes. Vous appelez, on vous fixe un rendez-vous et les extraits choisis sont souvent en lien avec l'actualité.
Et puis, ça se trouve, il y a même des gens qui font l'apéro, même sans livre. Pixar, on change de sujet, vous donne des cours de dessin sur sa chaîne YouTube.
Alors certains évoquent la meilleure activité du confinement, c'est le cas de nos confrères de Combini par exemple. Alors sur sa chaîne YouTube, le studio Pixar a mis en ligne plusieurs vidéos pour apprendre à dessiner les personnages de ses films d'animation, comme le cascadeur de Toy Story 4, Duke Kaboom, mais aussi Barley, le personnage du nouveau Pixar en avant. D'autres vidéos sont évidemment attendues.
Parlons théâtre à présent, le directeur d'une scène nationale a décidé d'aider ses intermittents.
Le directeur du théâtre des Salins, scène nationale de Martigues, c'est dans les Bouches-du-Rhône, il s'appelle Gilles Bouckert. Alors il a pris une décision qui mérite d'être saluée, Philippe. Suite aux différentes annulations de spectacles, festivals, la situation est très compliquée pour les intermittents du spectacle. Alors Gilles Bouckert a décidé d'honorer tous les contrats de son théâtre, notamment donc ceux des intermittents.
Voilà.
Des intermittents, malgré les annulations, les salaires des artistes, techniciens seront donc payés, ainsi que tous les frais engagés. Grâce à cela, les intermittents sur les spectacles annulés vont pouvoir garder leurs heures et leurs droits. Une décision prise pour, je cite, « défendre la culture en général ».
C'est vraiment un sujet très intéressant parce que maintenant la question qui se pose, c'est comment lui va réussir à financer, à payer ses intermittents, et c'est tout à fait honorable, sans avoir de revenus. On termine avec Mylène Farmer, la chanteuse qui met un de ses dessins aux enchères.
Alors, Alors, elle ne dessine pas un mouton, mais au profit de l'opération SOS EHPAD, à l'initiative de la Fondation Recherche Alzheimer, une grande vente aux enchères est organisée à partir d'aujourd'hui jusqu'au 27 avril. On retrouve donc un dessin de Mylène Farmer totalement inédit qu'elle a réalisé ce mois-ci. On peut voir le personnage de Lisa, la chanteuse y fait souvent référence, notamment dans une de ses chansons. Alors, Lisa, triste, qui tient un ballon en forme de cœur dans ses mains, un hibou est posé sur sa tête. C'est la deuxième fois qu'elle publie un dessin inédit pendant cette crise sanitaire. Alors, 200 lots sont mis aux enchères. Il y aura aussi une guitare électrique Eastwood de Keren Ann ou encore un maillot de foot signé par Kylian Mbappé.
Je l'ai vu, la guitare de Keren Ann, elle est magnifique. C'est une grosse 12 cordes. Merci Hélène Manarino. Dans un instant, on va retrouver la comédienne Astrid Veillon. Juste avant, musique.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Astrid Veillon.
Bonjour Philippe.
Où êtes-vous Astrid? Question rituelle qu'on demande toujours.
Je suis à côté de Lourmarin, dans ma maison, le sud du Luberon.
Vous avez bien de la chance, vous êtes comédienne et c'est ce soir le lancement de la saison 4 de Tandem, série très attendue sur France 3. 12 nouveaux épisodes diffusés deux par deux. Avant qu'on parle de l'épisode de ce soir, d'abord, pour qui ne connaît pas la série, votre et vos personnages, qui sont Léa et Paul?
Léa et Paul sont un couple divorcé depuis 14 ans maintenant, qui ont eu deux enfants ensemble. Ouais. Et puis Léa a eu la bonne idée de se rapprocher de son ex-mari il y a 4 ans.
Ouais.
Donc elle est la patronne, la commandante de la gendarmerie dans lequel son ex-mari est capitaine.
Vous avez oublié de dire que ce sont deux gendarmes de la brigade de Montpellier, anciennement mari et femme. Et évidemment, Léa est la supérieure hiérarchique de Paul, ce qui complique l'affaire. Sauf que c'est encore plus tordu que ça, puisque à la fin de la saison précédente, vous avez failli perdre votre poste après vous êtes opposé au colonel et finalement, un nouveau colonel vient d'arriver et c'est...
Mon papa. Le papa de Léa Solaire. Et c'est tout ce que j'aime dans cette série, c'est qu'on ose et qu'on assume complètement, quoi.
Mais
c'est ce qui fait les situations cocasses.
Mais évidemment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est Oedipe et Françoise Dolto à la gendarmerie. On va entendre on va entendre la bande-annonce.
Tandem, tout le monde répond à l'appel.
Ah, Marshall, ça fallait vous attendre.
Moi, à 8h, j'étais au bureau. Hein.
Fin prêt pour cette nouvelle saison.
Vous avez des infos?
Ouais, mais j'ai plein de suspects.
Comme quoi, hein.
Prêt à se surpasser.
Ça me suffit pas.
Ça suffit pas.
Et apparemment, ça lui suffit pas.
Prêt à tout changer.
C'est quoi tes projets de vie? Côté boulot, côté amour?
Situation complexe.
Un tandem en pleine révolution sur France 3.
Alors Astrid Veillon, qu'est-ce qui se passe dans l'épisode de ce soir? Le titre de l'épisode, c'est Résurrection.
Ça se passe dans une savonnerie. Voilà, ouais. Y a pas mal de rebondissements. C'est une enquête qui est très riche. Et puis, y a l'arrivée des nouveaux personnages qui vont s'installer petit à petit dans la série Tandem.
Je vais raconter le résumé. Philippe Préjean est retrouvé mort dans l'atelier de la savonnerie traditionnelle. Tiens, je sens que vous êtes en train de vous laver les mains et c'est un bon geste barrière. Vous avez absolument raison. Qui se lave les mains avec vous? C'est vous-même?
Oui, pardon, excusez-moi, c'est moi. Pardon, j'arrête, je bouge plus.
Encore un coup. Vous ennuyez à ce point en faisant de la radio que vous vous lavez les mains
pardon,
en même temps?
Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Pardon, mais c'est vrai.
On entend tout, on entend tout. Maintenant, on travaille avec un système qui s'appelle Reportit. Le son est très très bon.
Oui, je sais. J'ai galéré pour l'installer, donc je vois bien de quoi vous
parlez. Mais vous avez vu maintenant le résultat.
Je ne bouge plus.
Bref, il est retrouvé mort dans la savonnerie traditionnelle. Il a été tué à coups de Maryse. Maryse, ce n'est pas une voisine. Vous vous souvenez ce que c'est une Maryse?
Maryse, c'est pour... je suis perturbée. Allez-y.
C'est un outil qui sert à mélanger le savon.
Oui, dans les cuves à savon.
Ouais.
Oh là là.
Attendez, je vais parler un petit peu, comme ça vous allez avoir le temps de vous essuyer les mains.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Et il va y avoir toute une enquête. Ils vont retrouver des cheveux de l'agresseur retrouvés dans la main de la victime, sauf que l'analyse ADN...
Pas tout non plus, hein.
Non, mais attendez. Sauf qu'on découvre que l'ADN, c'est le type de quelqu'un qui est mort il y a 8 ans. Sauf qu'en fait, il n'est pas mort. On ne peut pas tout raconter. On va entendre un extrait. Ça se passe à l'Institut médico-légal. Il y a un mort sur le bio. Il a le crâne explosé. Il y a le médecin légiste qui est là, évidemment. Elle est morte de rire, Astrid Veillon, pendant ce temps. Et Léa, votre personnage, est horrifiée par ce corps devant elle.
Bonjour, Franck.
Ah, bonjour, Léa.
Ah, mais non.
Ah, bah non. Ah, bah non, là, moi, je me suis éclaté. Tirer quelque chose d'un corps dissous dans la soude et enterré depuis 8 ans, ça, c'est de la médecine légale.
Je savais que vous n'étiez pas normal. Mais sinon, vous avez trouvé quelque chose ou pas?
Oui, bien sûr, venez voir.
Ah non, mais c'est bon, Franck, ça va.
Ah, oui, d'accord. J'en suis qu'au début, mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà, c'est une mort violente. Un coup porté au crâne.
Donc aucun rapport avec une chute dans une cuve?
Non, 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 là, un coup porté à la tête avec quelque chose de très lourd et de plat.
Mais à votre avis, Laurent Belmont a été assassiné ou pas?
C'est difficile à dire, mais j'ai une petite surprise pour vous. Vous voyez la synostose crânienne ici? Et la synoviale articulaire?
Oui, bien sûr, je vois que ça, oui.
Bon, en tout cas, elles sont caractéristiques d'un homme de moins de 30 ans.
Vous dites, oui, bien sûr, je vois que ça, moi je sais pas faire l'ironie. Mais vous avez de l'ironie, vous avez dit à Télémagazine, cette année, Léa va essayer d'être drôle, mais c'est souvent raté.
Oui, c'est ça. C'est voilà, elle essaie l'humour parce qu'en fait, quand Léa est arrivée à la gendarmerie, elle avait un côté très psychorigide, très voilà, il fallait qu'elle s'impose dans cette nouvelle équipe où elle savait que son ex-mari avait imposé sa façon de travailler quelque part. Donc voilà, et au fil des saisons, Léa se détend, elle montre une autre facette d'elle et notamment cette saison, oui, elle s'essaye à l'humour et c'est pas toujours au bon moment et c'est pas toujours drôle. Donc elle se retrouve dans des situations, bon, elle s'y met toute seule, hein, ouais, qui sont plutôt cocasses. Ouais, j'aime beaucoup moi ce genre d'entier héroïne malgré elle.
Léa et Paul travaillent en duo, mais c'est un ancien couple, on l'a dit. Vous croyez que c'est possible de travailler en duo quand on n'est plus en couple?
Oui, alors ça, moi, ça me, si entre deux personnes intelligentes, je crois que tout est possible, en fait. C'est de l'instant où on est honnête et qu'on ne s'est pas manqué, quoi, en quelque sorte. Hein, voilà, il y a un moment, l'amour peut s'arrêter, où on peut se rendre compte qu'on n'a plus la même vision de la vie, des choses, et prendre simplement la décision de se quitter. C'est pas le genre de choses qui me... Oui, moi j'ai déjà travaillé avec des ex-compagnons, donc c'est pas un problème. Ouais. C'est surtout la nouveauté, c'est qu'effectivement, c'est qu'ils s'aiment encore. C'est surtout ça, en fait, le truc.
Ah oui, et parce que ça aussi, je l'ai pas dit. C'est un ex-couple, mais qui s'aiment encore. Donc dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge.
Voilà, c'est ça, série, en fait. C'est compliqué.
La série Tandem s'est exportée. Italie, Espagne, mais en Bulgarie. On vous reconnaît dans la rue en Bulgarie?
Je ne sais pas, je ne suis pas allée en Bulgarie ces derniers temps et je ne risque pas d'y aller en plus en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué de voyager.
Comment ça se passe le confinement? Vous faites l'école à votre fils, c'est ça?
Je fais l'école à mon fils, bien sûr, il a 10 ans, donc je l'ai fait pendant 2 semaines avant les vacances. On est en vacances en ce moment.
Ouais.
Écoutez, je
là, vous êtes sur quel programme? Vous en êtes où?
Il on est en CM.
Ouais, d'accord. Et il est sur quoi?
On
alors
est en
vous
CM,
êtes sur
j'ai l'impression d'être avec lui.
Les divisions.
Là, on est sur les fractions en maths. On est sur le futur en français. On est sur Henri IV.
Je vais rester sur le thème. Votre futur, c'est quoi?
Le futur, mais écoutez, je pense que cette crise nous apprend justement qu'il n'y a pas de futur, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être dans l'instant présent, voir un peu comment les choses évoluent à chaque fois. C'est ce que, en même temps, j'essaye d'apprendre à mon fils depuis qu'il est né, c'est-à-dire que d'être là, juste maintenant. Et la preuve en est, c'est que quand on prévoit des choses, ça se passe rarement comme on voudrait que ça se passe.
Ouais.
Donc, je suis incapable d'envisager le futur aujourd'hui, et je pense que très peu de gens sont capables de le faire. Donc, profitons de l'instant présent, ouais.
Et alors, justement, sur Europe 1, on va écouter les Sex Pistols, No Future. Non, je déconne. Merci beaucoup, Astrid Veillon, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le lancement de la saison 4 de Tandem, c'est ce soir sur France 3. Culture Média continue évidemment. Dans un instant, notre premier indispensable du jour avec Nicolas Caro. Il va nous parler d'un nouveau roman, d'un nouvel auteur. A tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Nicolas Caro pour le premier indispensable du jour. On va évidemment parler littérature. Bonjour Nicolas.
Bonjour Philippe.
Et ce matin, vous nous faites découvrir le roman d'un jeune auteur.
Il s'appelle Florent Oiseau, son roman Les Magnolias chez Alary Éditions. C'est un petit bijou extrêmement drôle. C'est très rare de rire, de vraiment rire en lisant. Ça a été le cas pour moi, en tout cas avec ce livre. C'est un peu dans l'esprit des films des frères Cohen, si vous voulez. The Big Lebowski en particulier.
Voilà, c'est mon préféré.
C'est l'histoire d'Alain, un loser total. Il vit dans une petite ville où les psychanalystes ont fait faillite, non pas parce que les gens ne sont pas tristes, mais parce que c'est une région où personne ne se plaint jamais. On bosse et c'est tout, sauf lui qui ne travaille pas. Officiellement, il est acteur, mais il n'a joué qu'une fois dans une série télé de l'été, Soleil sanglant, et encore, il jouait le rôle d'un cadavre, donc il était plutôt loin de l'Oscar. La faute peut-être à son agent, Rico, un ami d'enfance qui a décidé qu'il était son impresario, mais qui est surtout un pauvre type qui vit de petits trafics et fait de temps en temps un tour en prison. D'ailleurs, ce même Rico vient d'emménager chez Alain pour une durée indéterminée, faute de pouvoir payer son loyer. Par ailleurs, il conduit une Renault Fuego, et c'est le troisième roman de Florent Oiseau, qui est un spécialiste de ce genre de personnage.
Je les affectionne tout particulièrement, et puis je crois que j'ai pour l'instant ni le talent, ni l'expérience nécessaire pour compter des destins absolument flamboyants et raconter la vie de gens qui réussissent. Du coup, moi, je me sers pas mal de mon passé. J'ai fait une quinzaine de petits boulots. Alors, je suis assez jeune, mais j'ai une propension assez incroyable à me faire renvoyer systématiquement, donc j'ai pu enchaîner pas mal de petits boulots. Et je dois dire que j'aime aussi les petits destins, et j'aime donner, alors très modestement, mais une forme de lumière et de mettre des personnages qui, en apparence, ne méritent pas de l'être sous les modestes projecteurs de mes livres.
Alors, qu'est-ce qui lui arrive à son personnage d'Alain ?
Eh bien, tout loser soit-il, il a bon fond cet Alain. Il ne veut de mal à personne et il est quasiment le seul de sa famille, notamment à s'occuper de sa grand-mère qui vit dans une maison de retraite, les Magnolia. Elle est très seule, aveugle et pratiquement sourde et il vient la voir tous les dimanches. Un jour, elle lui demande au moment de son départ, discrètement mais fermement, de l'aider à mourir.
Ah oui, bah là du coup c'est moins drôle.
Ben oui, mais de ce tragique, Florent Oiseau construit une fable extrêmement drôle, je vous l'ai dit, et notamment certaines scènes dans la maison de retraite. Le livre, évidemment, a été écrit bien avant le confinement, et ce qui se passe aujourd'hui lui donne un écho étonnant.
J'ai eu à me rendre pendant quelques mois dans une maison de retraite, et au-delà du décor absolument romanesque que peut constituer une maison de retraite, parce que je pense qu'on peut absolument tout mettre sans avoir peur du fait qu'on dise ouais, c'est pas crédible. Si dans une maison de retraite tout est crédible, que ce soit les choses tristes ou les choses amusantes, je me suis rendu compte du fait que la plupart des résidents n'avaient absolument aucune visite, que les conditions étaient délicates, mais elles le sont pour tout le monde, elles le sont pour les résidents et pour les aides-soignants et pour les gens qui essayent de faire en sorte que ça change et que ça se passe pas trop mal.
Voilà, et ensuite Alain va découvrir à partir de là quelques secrets de famille et notamment les histoires secrètes de sa grand-mère, les histoires d'amour. Ça pourrait d'ailleurs peut-être expliquer la présence de cet homme en costume mauve, très classe, qu'il croise à chaque fois qu'il va rendre visite à sa grand-mère. Parallèlement, on suit quand même sa carrière d'acteur qui pourrait peut-être éventuellement commencer à décoller. Faut dire qu'il s'entraîne tous les jours à jouer tout et n'importe quoi. Il s'entraîne à jouer bon la stupeur, la colère, le doute, la peur, mais aussi des choses un peu plus abstraites comme l'automne, l'éclosion du bourgeon et même le chandelier qui se consume dans un manoir des Vosges.
Ah oui, effectivement, c'est l'acteur studio, il est prêt pour tous les rôles.
Exactement. Et en plus, il a de vrais combats. Pendant tout le livre, on suit un fil rouge, la liste des noms de poneys. Alain ne comprend pas et est proprement scandalisé par ce constat. Les poneys ont des noms ridicules comme Caramel, Cachou, Texas ou Pompon, alors que les purs sang, eux, ont des noms à particules, c'est scandaleux. C'est un livre étonnant, très drôle et en même temps très profond et finalement assez grave. C'est brillant.
Et j'ai connu un poney qui s'appelait Petit Voyou. Les Magnolia donc de Florent Oiseau, c'est vrai en plus, chez Alary. Merci beaucoup Nicolas Caro. Dans un instant, notre second indispensable du jour, on parlait cinéma avec Mathieu Charrier, mais avant cela.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Mathieu Charrier pour le second indispensable du jour. Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
On parle cinéma avec vous aujourd'hui. Trois films à voir ou à revoir en VOD. Et on commence par une comédie de couple, ou plutôt de séparation de couple. Et ça s'appelle L'amour flou.
Exactement, c'est l'histoire d'une rupture un peu particulière puisque ce couple, c'est Romain de Boranger, que vous connaissez, ouais. Et Philippe Rebaud, que vous connaissez aussi, en tout cas vous avez vu son visage. C'est un acteur qu'on voit beaucoup dans les films français avec une gueule incroyable. Ils étaient donc ensemble depuis des années, deux enfants, et puis cette routine, vous savez, qui s'installe. Alors c'est pas qu'on n'est plus amoureux, mais c'est différent, quoi. Alors un jour, il faut prendre la décision qui s'impose. Romain de Boranger et Philippe Rebaud trouvent alors la solution, se séparer, mais au sein d'un sépartement, c'est-à-dire c'est un concept assez simple, chacun son appartement, mais la chambre des enfants est au milieu des deux, avec deux portes, vous voyez, une porte pour aller chez papa, une porte pour aller chez maman, ouais. Comme ça ils font comme bon leur semble. L'originalité du film, c'est qu'ils l'ont tourné pendant ce bouleversement dans leur vie, c'est-à-dire pendant qu'ils étaient en train de se séparer. Écoutez-les, Romain de Boranger et Philippe Rebaud.
Il y avait un grand besoin de joie de raconter cette histoire dans la douceur, dans la gaieté, de faire des blagues, d'écrire des scènes marrantes. Bon, je sais pas, je crois qu'il y avait une grande envie d'optimisme. Et je pense que c'est vraiment le truc qui nous a permis d'aller au bout de la réalisation de cet objet qui était un peu insensé, puisqu'on l'a tourné en même temps qu'on faisait nos travaux, en même temps qu'on déménageait, en même temps qu'on s'installait.
On fait un témoignage, alors.
C'est cette idée
de passer le message nous a porté tout le temps en disant écoute, notre bonheur, faut quand même le transmettre. Soyons heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple.
Donc c'est un film, hein, c'est pas un documentaire, ouais. C'est un film drôle, tendre, il y a même leurs enfants qui jouent leur propre rôle, il y a leur copain Reda Kateb avec lequel Philippe Rebaud balade son chien, il y a aussi Clémentine Autain, qui est le fantasme de Philippe Rebaud dans la vraie vie, donc elle a accepté de jouer ce rôle dans le film, si je vous assure. Dingue. Franchement, vous passez un super moment. D'ailleurs, L'amour flou a reçu le prix du public dans pas mal de festivals quand il était sorti en 2018 et c'était le film le plus rentable de l'année parce qu'évidemment ça coûte pas grand chose de filmer la vraie vie et en revanche quand ça marche en salle, bah, ça peut rapporter de l'argent.
Autre conseil Mathieu, un film d'animation signé Michel Oslo.
Oui, vous savez à qui on doit notamment Kirikou, Prince et Princesse, Azur et Asmar. Et donc ce Dilili à Paris, son dernier film d'animation que je vous conseille. On est dans le Paris de la Belle Époque, avec ses hommes en costume, ses femmes en longues robes, beaux chapeaux, les carrioles qui roulent sur les pavés. Bref, c'est le temps de l'insouciance. Et c'est dans ce beau Paris que débarque Dilili, une jeune Kanak de Nouvelle-Calédonie, noire donc, dans un Paris très blanc. Sauf que, figurez-vous que des jeunes filles disparaissent quasi quotidiennement dans la capitale. Dilili va alors mener son enquête et se rendre compte qu'elles sont enlevées par les mal-maîtres, des méchants très particuliers qui opèrent sous terre. Extrait.
En avant vers Paris.
Ma première journée dans Paris. C'est extraordinaire. Quel bonheur d'être avec toi dans ton triporteur.
Une autre fille est enlevée. Les mal-maîtres ont encore frappé.
Nous percerons le mystère des mal-maîtres.
Entendu. Je connais beaucoup de monde.
Ce qui est génial dans ce film, c'est qu'il y a question de racisme, la soumission des enfants, c'est un hymne à la tolérance. Et en même temps, il y a ce dessin de Michel Oslo, magnifique. C'est en trois dimensions, mais intégré dans le décor. Vous n'avez pas besoin de lunettes 3D. Ah. La reconstitution de Paris est tout simplement impressionnante. Michel Oslo l'a photographié la capitale pendant 4 ans pour ensuite réaliser ses dessins. Donc c'est intelligent, c'est beau, c'est militant. Ça n'avait pas très très bien marché en salle, en tout cas moins bien que d'autres films de Michel Oslo. Donc rattrapez-le en VOD, je dirais, à partir de 5-6 ans.
Et puis pour terminer, vous nous faites faire un détour par le cinéma italien.
Ouais, avec Silvio et les autres, c'est un film de Paolo Gentino consacré à Berlusconi. Alors c'est un biopic baroque sur le pouvoir de séduction d'un homme au sens très large, dans sa villa magnifique, vue sur mer, piscine à débordement, mais qui s'emmerde toute la journée, qui va chercher qu'une chose, c'est à retrouver le pouvoir. Voilà, c'est un film qui n'est pas à charge. Hein. Paolo Sorrentino, il n'a pas voulu en rajouter sur le profil de Silvio Berlusconi, mais il raconte la vacuité de l'argent, de la course à l'argent. Il y a de l'humour du second degré, et vraiment, avec Tony Servillo en plus dans le rôle de Berlusconi, vraiment, vous pouvez le regarder, ça s'appelle Silvio et les autres.
Merci beaucoup Mathieu Charrier, à très bientôt. Merci à tous, Culture Média c'est terminé. On se retrouve demain à 9h30, nous serons avec Xavier Gondon, le directeur des antennes télé et digitales du groupe TF1, le directeur des programmes Quoi, et puis la chanteuse Lara Fabian. Maintenant, c'est Anne Romanoff et sa bande pour Ça fait du bien.